Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Blasio Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir, tâchez de vous être agréable. Nous reprenons notre cycle d'interviews. Je suis aujourd'hui chez Eunice Kouri. Nous sommes à Rio de Janeiro, sur Copacabana. Votre appartement, Eunice, c'est un peu la carte postale de Rio, avec cette vue-là, face à la mer. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qu'on voit pour les auditeurs?
C'est très bien, c'est un cadeau des dieux, du ciel, parce qu'on voit toute la mer. On voit Copacabana complète. La plage.
Là, vous êtes en face, on ne peut pas faire plus en face. Eunice Kouri, vous êtes brésilienne de descendance libanaise. Vous êtes née à Rio de Janeiro. Et vous avez toujours eu un peu une âme artiste parce que vous avez plusieurs talents. Vous avez chanté, vous avez dansé, vous aimez écrire, vous aimez dessiner. Et vous avez animé pendant longtemps une émission de radio à Rio de Janeiro sur la musique française.
Voilà.
Alors, vous êtes brésilienne, mais vous avez un lien très fort avec la France. D'où vient cette relation?
Depuis que j'étais enfant, on a appris un petit peu le français à l'école. J'étais à l'école Notre-Dame. Donc, c'était une école religieuse et... J'aimais cette école et j'ai appris un peu le français.
Vous avez...
Et je me suis passionnée.
Oui, vous avez très bien appris le français. Voilà, vous parlez absolument couramment français.
Ouais, j'ai oublié un petit peu.
Bon, ça, c'est pas grave. Et puis, racontez-nous l'aventure de cette radio qui est en fait l'idée de votre maman.
Oui, voilà. Lorsque maman était jeune, écoutait les radios et elle était très, très amoureuse de la radio. Elle était fascinée. Alors, elle souhaitait avoir une radio. Et alors, comme elle s'est mariée avec mon papa, il était venu du Liban.
Du Liban?
Du Liban.
Il est né au Liban, votre père?
Oui,
mon papa. D'accord. Votre mère est née à Rio?
Elle est née à Rio, mais elle était fils de Libanais aussi. Et mon papa, il a quitté le Liban dans la guerre. Pour ne pas tuer deux opposants, il a dit, vous partez par là, moi je pars d'ici, je ne peux pas vous tuer.
Et est-ce que vous savez en quelle année c'était, à peu près?
C'est la première guerre.
Ah oui.
Oui. Alors il est venu, il a vu ma maman qui était très belle, modestement, c'est vrai.
Oui, j'ai vu des photos, c'était une très belle femme.
Et elle était en train de balayer.
Elle était en
le jardin
balayer.
De ses parents. Il a dit, elle est tout ce que je veux, tout ce que j'imaginais. La beauté et une femme de l'art.
De l'art, du foyer.
Du foyer.
Oui.
Alors là, il a promis la lune et elle a accepté, elle a cru.
Ah, mais c'est une vraie histoire d'amour.
Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, elle attend la lune qui n'est pas arrivée. Il lui a donné 7 enfants.
7 enfants.
2 sont partis encore dans le ventre. Ouais. Bon. Et... elle n'a pas obtenu la lune, mais alors la radio, c'était un peu sa lune. Alors elle a voulu avoir une radio.
Mais elle voulait que ce soit sa radio à elle. Elle ne voulait pas se contenter d'avoir une émission de radio.
Non, elle voulait avoir une radio. Alors mon papa, il a commencé à travailler comme, je ne sais pas comment dire en français, celui qui frappe les portes pour vendre quelque chose.
Oui. Alors,
qu'est-ce qu'on appelle?
Il faisait du porte-à-porte.
Alors... Il vendait des choses, et c'est pour ça qu'il s'est enamoré de ma mère. Et après, il a créé une fabrique d'argent. Et il faisait
des objets en
argent merveilleux. Il a commencé à avoir du succès. Alors, ma maman avait demandé, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une radio? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une radio? Alors, les gens lui disaient, il faut avoir, qu'est-ce qu'on dit, une chaîne. Et comment on achète une chaîne? Ah, ici au Brésil, il n'y en a plus. Et alors, où est-ce qu'elles sont les chaînes? Dans l'Amérique du Sud.
Alors, la chaîne, je n'ai pas compris ce que c'était.
Chaîne des radios.
Oui, Mais qu'est-ce que c'est, la chaîne?
La chaîne, c'est une radio avec le numéro. Comment est-ce qu'il faut avoir la radio? Pour avoir une
fréquence? Une fréquence? Ah oui.
Oui.
Et oui, bien sûr.
On appelle 6 chaînes.
D'accord.
Alors, et comment est-ce que je trouve ça? Il faut demander, parce qu'il n'y a pas au Brésil, il faut demander dans l'Amérique du Sud. À qui? Au président de la République, des républiques. D'accord. Elle a pris les objets d'argent de son mari,
non.
De mon papa. Elle a pris, elle allait en Bolivie, elle donnait au président de la République.
Ah.
Elle allait au Paraguay.
Oui.
Et aussi au Chili, etc. Et elle a réussi à avoir des chaînes, on dit bon Brésil chaîne,
oui.
des radios.
Oui.
Et elle a fait une radio qui s'appelait son rêve doré et
Eldorado. Eldorado, et oui, le mythe de Eldorado.
C'était notre radio, Radio Eldorado. Et alors, elle a créé aussi une façon différente des autres radios parce qu'elle ne présentait presque pas des annonces.
Mm-hmm.
Donc, son lème était musique, exclusivement musique. Et aussi, les minimums des paroles, les maximums des musiques.
D'accord.
C'était son slogan.
Oui.
Oui. Et c'était très bien. Mais pour avoir cette radio, elle n'avait pas l'argent pour tout acheter. Pour tout acheter, pour avoir une radio complète. Alors, elle a été obligée d'avoir des associés.
Oui.
Et ces associés, quelques temps plus tard, ils ont fait une trahison.
Ah.
Lorsqu'elle était malade, elle a eu un problème. Ils ont dit, ou vous nous vendez pour 20 quelque chose, ou vous nous achetez pour 100 quelque chose.
Ce qui n'était pas possible, vous ne pouvez pas acheter pour 100.
Je ne sais pas quel était exactement le... Alors, elle ne pouvait pas donner 100, je ne sais pas combien, 1000, etc. Elle a été obligée à vendre à ses associés par 20 000.
Oui,
ça
fait un peu mal au cœur quand même. Hein?
Oui, et elle était très triste, très déçue, etc. Alors, elle a cherché de nouveau dans tous les pays à côté et elle a trouvé une chose qu'il n'avait pas au Brésil, c'était la fréquence modulée.
Ah oui,
la belle FM.
Et oui.
Et elle a fait la première FM du Brésil, qui s'appelait en hommage à la presse, parce que la presse, c'était important pour les gens qui voulaient se montrer. Alors, la radio s'appelait Radio Imprensa, Radio La Presse.
Ce qui signifie la presse en portugais. Alors, il y a une chose que je n'ai pas comprise, Niscouri. Pourquoi votre maman voyage à l'étranger pour obtenir une fréquence?
Parce qu'elle n'était pas au Brésil.
Ah,
elle n'existait pas.
D'accord. Et est-ce qu'elle a réussi à obtenir des fréquences dans d'autres pays d'Amérique du Sud, par exemple le Chili ou la Bolivie?
Oui, elle a des Bolivies. Elle a réussi à en avoir 3 ou 4. C'est pas chaîne, c'est?
Alors, nous, on va dire fréquence.
Fréquence.
C'est-à-dire, c'est le numéro sur lequel on peut capter les ondes radio.
Oui.
Votre papa, Eunice, est-ce qu'il vous a enseigné l'arabe?
Non.
Donc, à la maison, on parlait portugais.
Oui,
d'accord.
Et tout ce qu'on a appris, c'était les gros mots.
Ah, normal, ouais, comme tous les enfants.
Ou alors les mots d'amour.
Habibi.
Ya Habibi, mon chéri.
Voilà, ça c'est normal.
Et aussi, mon frère dit que c'était seulement pour lui, la lumière de mes yeux, c'était Yayouni.
Ah, d'accord. Bon, d'accord.
Bonjour,
mais vous avez toujours en vous quelque chose de la culture du Liban, toujours?
Non, seulement on faisait bien la cuisine.
Oui, la table.
Avec ma mère.
J'allais penser, oui, les plaisirs de la table,
oui,
voilà,
oui.
Les mezzés, comment ça
n'a pas. C'est pour ça que la première fois que je suis allée au Liban avec un groupe, etc. Et
vous êtes allée au Liban?
Oui, et j'étais très émue.
Ah oui?
Parce que mon papa parlait très bien du Liban, oui. Personne ne les croyait, et les gens l'appelaient des Turcs. Des Turcs.
Ah, le Turc, voilà.
Oui.
Eh oui.
Alors, il dit, oui, les petits Turcs, c'est moi, parce qu'il a accepté, parce que les gens ne disaient pas les Libanais, ils disaient les Turcs. Oui, d'accord, je suis Turc.
Alors, il faut préciser pour les auditeurs qu'au Brésil, le Brésil est vaste, le Brésil a plus de 200 millions d'habitants, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont d'origine libanaise au Brésil.
Je crois, oui.
Hein? Il y a beaucoup de restaurants libanais, des épiceries libanaises. Votre papa, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans la vie, alors?
Oui, il a réussi parce qu'il a commencé avec celui des porte-en-porte qui vend des objets et il a créé sa fabrique d'argent.
D'objets en argent. Il faisait
des choses très, très belles, bien, très bien, artistiques.
Des plats, par exemple, des trucs
pour mettre de l'eau, mais tout.
Orné. D'accord.
Et là, il était très connu. Il s'appelait Prataria Brasileira, argenterie brésilienne. Et c'était PB. Donc, ces objets étaient
signés.
PB.
Voilà.
Signés PB.
Quel était le nom de votre père?
Michel Coury.
Et quel était le nom de votre mère?
Ma mère était aussi d'origine libanaise, son papa et sa maman. C'était Meresh. Meresh Bess.
Le côté artiste que vous avez, Eunice, est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu de votre éducation ou vous pensez que c'est vraiment votre personnalité? Parce que vous avez aimé danser, vous aimez chanter, vous aimez écrire, vous aimez peindre.
Je crois les deux parce que j'ai dessiné bien lorsque j'étais enfant. C'était un peu...
Une disposition.
Une disposition. Oui. Et je faisais aussi dans notre école qui était catholique. C'est moi qui faisais les dessins de la messe de chaque jour.
D'accord. Tous les jours, il y avait la messe?
Il y avait la messe tous les jours.
Ah oui.
Oui, on était obligés.
Oui, c'était obligatoire, oui.
Et après, j'ai commencé à faire la peinture, j'ai appris un petit peu, mais c'était un peu un don.
Eunice,
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
La radio, dans votre cas, comment est-ce que ça débute? À quel moment? Et quelle est votre idée, votre ambition?
Comment est-ce qu'elle débute maintenant?
Votre aventure de la radio, quand vous avez... Racontez-nous comment vous avez commencé à faire des émissions de radio.
Ah, parce que justement, comme ma maman avait été trahie par ses amis, et elle avait cette radio, il n'y avait pas d'annonce, c'était difficile de faire des annonces. Oui, la publicité.
Donc, pas d'argent.
Pas d'argent.
Ouais.
Alors, elle m'a appelé pour l'aider. Alors, j'ai créé une façon de gagner de l'argent. C'était comment? En faisant les gens avoir envie de faire une émission.
Ah.
Alors, je vendais les horaires. Et les gens payaient pour avoir un programme. Donc, et j'ai séparé aussi des différents horaires pour qu'il y ait une unanimité, c'est-à-dire une cohésion. Donc, les matins, moi-même, je faisais une émission, parce que comme j'adorais la France,
ouais,
c'était le meilleur de la chanson française. Et je faisais aussi des interviews avec des sujets très intéressants, médecine,
ouais,
médecine, musique, art, peinture, tout. J'interviewais les gens. Et après midi, j'ai vu que c'était la mort ici au Brésil, d'une chose qui n'était pas bien pour la vue des gens comme ça, sans ça. C'était le funk, au funky. La musique funk. Donc, j'ai vendu de minuit, midi, jusqu'à 6 heures de l'après-midi, la musique funk. Ils payaient et il y avait une unanimité. Donc, c'était la numéro 1 en hip-hop.
En sondage. En audience.
Oui.
Et c'était... Alors ça, c'était dans les années... C'était dans quelles années?
De 2000 jusqu'à... Non, 1980 jusqu'à 2000.
Alors, le funk, nous, on dit le rap en français. C'est plutôt du rap. C'est drôle parce que je ne vous vois pas du tout écouter du rap. Eunice, je vous connais un petit peu.
Moi, je n'écoute pas.
Non, hein,
c'était la présentation.
Mais vous avez le sens des affaires. Vous êtes une bonne commerciale.
Oui, un petit peu.
Parce que vous avez été commerciale.
Oui, parce que c'était moi qui s'occupais de la vente, des choses, de l'organisation de ma mère.
Mais...
Et la radio, elle a trouvé un deuxième place dans le bop.
Donc, ça marchait très bien. Ouais.
Ça marchait très bien. Après, il y avait l'âme Marie, la Dieu vous salue Marie, et après, une musique plus... comment est-ce qu'on dit, plus douce, etc. Et après, parce qu'il y a au Brésil, à 7h jusqu'à 7h30 ou jusqu'à 8h, actuellement, je ne sais pas comment ça marche, il y avait l'horaire du Brésil. Donc, c'était les annonces commerciales faites par le gouvernement. Et après 8h...
Pardon, alors, par exemple, quelque chose qui peut être, par exemple, ça fait...
obligé.
Ah, bon?
Oui.
Et qu'est-ce que c'est, par exemple, comme annonce?
Tout ce qu'ils font, qu'est-ce que le gouvernement fait, c'est seulement le gouvernement. C'est lui qui s'en occupe.
D'accord.
C'est lui qui faisait.
Mais vous avez obligation de diffuser?
Oui, c'était obligé. Ah. Toutes les radios.
Mais c'était quoi? C'était de la propagande gouvernementale?
Non, c'était l'horaire du gouvernement.
D'accord.
Ils faisaient ce qu'ils voulaient.
D'accord.
C'était à eux. Ils ne payaient pas.
Oui.
Après 8 heures, c'était mon frère Simon qui s'occupait de la musique.
Alors, qui connaît très bien la musique, hein, Simon Cooley, et qui a écrit de nombreux livres, qui a joué au théâtre déjà.
Oui, oui.
Ami des artistes, hein, Simon.
Alors, il faisait la musique merveilleuse du cinéma. Il s'occupait des musiques du film. Et après, il y avait d'autres, on louait pour d'autres programmes. Et la radio marchait très bien.
Bossa Nova, que j'ai dansé avec toi, je ne me souviens plus très bien où ça. C'était la fin de la nuit, j'avais bu quelques whisky, alors tu m'as emmené chez toi, chez toi.
Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, Enis Kouri, que vous aviez le sens des affaires et que vous étiez une bonne commerciale, je faisais aussi référence à la période où vous avez travaillé pour une grande compagnie aérienne et ça marchait très bien.
Oui, oui.
Vous étiez une bonne...
Royal Air Maroc.
Hein, vous avez gagné des voyages.
Oui, oui, c'est bon, travailler pour une compagnie aérienne, on voyage...
Très facilement.
Facilement, puis.
Sans bourse déliée, la compagnie marocaine vient toujours au Brésil, je crois. Il y a une ligne à Casablanca, non?
À Casablanca, mais je ne sais pas si au Maroc, mais je ne sais pas si actuellement il y a une grande... il y a eu ici un grand apport. Moi, j'étais la première en vente pour l'Amérique du Sud, la troisième pour le monde.
Ah oui.
Parce que j'ai visité les agences de voyage, j'ai raconté ce qu'il y avait, il y a ça, il y a ça. Et les gens étaient émerveillés par le Maroc. Mais après, ça a tombé.
Alors, quand vous avez eu votre émission de radio, Le meilleur de la chanson française, est-ce que vous avez eu l'occasion d'interviewer des chanteurs français?
Oui, avec tellement de plaisir. J'allais, comme je travaillais à Royal Air Maroc, j'avais des voyages gratuits.
Ah, très bien.
Alors, je suis allée en France pour interviewer Yves Montand.
Yves Montand.
Charles Aznavour.
Ah oui.
Serge Lama, Serge Reggiani, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri et plusieurs chanteurs. Yves Duteil.
Ah oui.
Jacques Dutronc. Beaucoup de... Tous les chanteurs...
Alors, vous aviez un petit microphone, vous aviez votre
matériel. Oui, j'avais mon matériel, c'était simple. Et simplement enregistrer.
Un petit enregistreur,
oui,
voilà.
Oui, oui. Et par exemple, Charles Aznavour, il m'a reçu les bras croisés comme ça, comme si j'étais mauvaise. Parce que lorsque les gens sont fameux,
oui.
La presse veut trouver quelque chose qui ne va pas. Alors, il avait peur, il m'a trouvé comme ça. Mais alors, au fur et à mesure que je l'interviewais, il a...
Il s'est un peu détendu. Voilà, très connu en France, au Brésil, hein, Charles Aznavour.
Oui, très connu.
Très connu. Très connu au Brésil. Vous avez animé ce programme pendant combien de temps, Eunice?
20 ans.
Ah oui, pendant 20 ans.
De 1980 jusqu'à l'an 2000.
Ce qui vous a valu d'être décoré, parce que vous avez diffusé la culture française, donc vous êtes décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Des Lettres.
Qui vous a reçu?
Jacques Lang.
C'est Jacques Lang qui vous a reçu.
Oui, c'était ici ce qu'on appelle le consul général de France, qui a vu l'amour pour la France, le respect pour la France et la diffusion de la langue française et aussi non seulement de la chanson, mais de la France.
Voilà, vous étiez une ambassadrice de la culture française, on peut le dire.
Voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Rio de Janeiro? On est dans une des plus belles villes du monde. Et pour autant, il y a parfois, on voit des gens qui dorment sur le trottoir, qui ne rentrent pas chez eux le soir. Alors, moi, je trouve que c'est toujours un petit peu désolant. Je n'arrive pas à m'habituer, en fait.
Oui, c'est très triste, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah ben, on ne va pas régler le problème de la misère.
Il y a des gens aussi qui sont là dans la misère, mais qui ont toujours ses portables à la main. Donc, ils ne veulent pas travailler.
Ah.
Parce que l'éducation au Brésil n'a pas trouvé ce qu'il faut faire. C'est l'obligation de faire toutes les familles envoyer ses enfants à l'école. Et comme ils n'ont pas d'argent parce que les écoles sont chères, il faut qu'ils trouvent des écoles gratuites.
Ça existe,
l'école publique. Ça existe, mais ce n'est pas tellement facile.
D'accord.
Il faut donner de l'éducation pour que les Brésiliens trouvent qu'il faut faire ça.
Alors, l'éducation, évidemment, c'est la base.
Oui.
C'est la base de tout, de la pyramide. Il y a au Brésil... Alors, comparé à la France, c'est une société qui est plus inégalitaire. Il y a plus de différences entre les riches et les pauvres. Pour autant, il y a des mesures en faveur des gens qui sont pauvres. Je pense par exemple à la bourse famille,
oui,
ou à la sécheresse basique. Donc, il y a quand même des aides publiques.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne?
Ça fonctionne un peu, mais ce qui vaut mieux, c'est de former la personne, la créature, pour qu'elle puisse grandir et être quelqu'un. Et non, la facilité, gagne la bourse, mais il va dormir dans la plage et demander l'argent. Donc, c'est une façon qu'il fallait que le gouvernement pense à chacun de nous.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire?
Il y a beaucoup de progrès à faire. Parce qu'actuellement, on voit qu'il y a des gens qui commandent et qui ne pensent pas vraiment aux gens, mais pensent à soi propre. On dit soi propre?
Qui pensent à eux. On va dire qu'ils pensent à eux. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Pas nécessairement.
Oui, parce que...
Mais il y a des initiatives, en revanche, qui sont intéressantes. Et en ça, je trouve que le Brésil est un pays très inventif. Par exemple, il y a des... On va parler un peu de culture, on va parler un petit peu de musique. Il y a des spectacles qui sont très peu chers, qui sont évidemment subventionnés. Et on peut aussi venir au théâtre avec des aliments non périssables. On peut apporter aussi un paquet de riz, par exemple, ou un paquet de haricots. Et on bénéficie d'un tarif réduit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret, j'ai envie de dire. De toute façon, le Brésil est un pays inventif. Quand on est brésilien, il faut être inventif. On est malin.
Peut-être. C'est tout à cause de l'éducation. Parce que c'est l'éducation. Il faut élever les gens. Et aussi, je crois à la religion, n'importe quelle religion, qu'il faut montrer le respect à son proche. C'est comme ça?
À son prochain. Oui.
Parce que si c'est comme ça, on veut le meilleur pour chaque personne. Et on veut aider de la façon dont on peut. Moi, j'ai pu aider mes employés, par exemple. Elles ne les payaient pas pour pouvoir avoir les prix de la vieillesse. Comment est-ce qu'on dit le...
La retraite. Vos employés, mais vos employés domestiques. Par exemple, la femme de ménage, la cuisinière.
Oui,
voilà. Vous n'avez pas des salariés.
Parce qu'ils ne savaient pas comment faire.
Ah, oui.
Donc, il faut qu'on sache les choses. Il faut l'éducation. Ça, c'est...
C'est la base.
En France, c'est comme ça.
Ben,
les écoles sont gratuites, en général.
C'est obligatoire jusqu'à 16 ans.
C'est obligatoire, voilà.
C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et en France, ce qu'il faut préciser, c'est que les cours, c'est toute la journée. C'est le matin et l'après-midi. Et la difficulté au Brésil, c'est que souvent, on a cours le matin ou l'après-midi. Ce qui fait que l'enfant, le risque, c'est qu'il traîne un petit peu dans la rue parce que les parents travaillent. Le père, quand il est présent, parfois il n'y a pas de père, et puis il peut avoir la tentation de faire un petit peu des bêtises.
Oui, c'est vrai.
Vous parliez de la religion. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le poids de l'Église évangélique au Brésil? Parce que en France, elle est infime, elle est très, très minoritaire. En revanche, au Brésil, l'Église évangélique, elle est très importante.
Oui, parce qu'au Brésil, je crois que l'Église évangélique, elle a un peu plus d'attraction pour les gens.
Elle a un pouvoir d'attraction.
Elle parle mieux, elle parle beaucoup. Mais elle a aussi des fantaisies. Pour que les gens viennent.
C'est pour ça, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de marketing aussi dans la religion évangélique?
Ils savent comment se montrer, n'est-ce pas? Ils savent. Mais en France, c'est la religion. C'est Dieu.
Ah, bon, c'est le même Dieu.
C'est le même Dieu, alors c'est bon parce qu'ils vont apprendre quelque chose. En général, toutes les bonnes, les employés domestiques, sont des évangéliques.
Souvent.
Mais... grâce à Dieu, elles sont plus proches de Dieu. Parce que peut-être, ils savent quels sont les problèmes. Ils sont plusieurs petites églises. Donc, ils sont en contact plus grand avec eux.
Alors, en Europe, du point de vue européen, ce qu'on reproche un petit peu aux églises évangéliques aux États-Unis, par exemple, ou au Brésil, c'est qu'elles ont quand même un rapport avec l'argent qui est quand même particulier. C'est-à-dire, souvent, elles demandent, voilà, nous, on veut que vous nous donniez de l'argent, quoi. Elles ont la réputation d'être des églises très riches, comparées à l'église traditionnelle catholique. Est-ce que vous partagez cette opinion ?
Il y a des gens qui font ça, et qui gagnent de l'argent. Par exemple, l'église catholique, elle doit payer les prêtres, elle doit nettoyer l'église, elle doit avoir les lampes, payer tout ça.
L'électricité, les charges, quoi.
Oui. Ouais. Donc, il faut avoir un petit peu d'argent. Mais il y a des gens qui s'en profitent, mais je ne peux pas dire qui exactement.
Non, non, sans vouloir dire.
Ouais, mais je ne sais pas exactement.
D'accord. Nous avons appris en France, il y a quelques semaines, la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à de la prison ferme. Donc, Nicolas Sarkozy a été transféré en prison où il est resté 3 semaines. Il est aujourd'hui sorti de prison et il exécute sa peine avec un bracelet électronique. Il a eu le droit de rentrer chez lui. L'ancien président, Nicolas Sarkozy, est marié à une chanteuse italienne d'origine que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Carla Bruni. Oui. Voilà, c'est son épouse. Nous avons appris au Brésil, il y a à peu près un mois, la condamnation de l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, à une peine très lourde de 27 ans. Et nous avons appris ce week-end son incarcération, ce qui est un peu une surprise, puisque Jair Bolsonaro était... on a annoncé qu'il était malade. Et là, il a été transféré en prison. Est-ce que vous vous attendiez à une telle décision ou est-ce que vous avez été surprise ?
Non, je suis absolument surprise, mais cette surprise, elle se passe déjà depuis son élection qui n'a pas été faite. Parce qu'il y a eu plusieurs problèmes, même dans les urnes, qui ne sont pas diffusés. Et après, il y a une persécution avec lui, qui est un homme bien, du bien, un homme qui n'a fait que de belles choses pour le Brésil. Et actuellement, le Brésil tombe, et on a peur qu'en prison, il meure, comme d'autres personnes meurent.
Alors, vous parlez de quelle élection quand il a gagné ou quand il a perdu contre Lula.
Il n'a pas perdu, parce que ça a augmenté, et à un moment donné, tout a baissé. Et ils ne veulent pas montrer les urnes, ils ne veulent pas montrer ce qui s'est passé. Donc, on sait qu'il y a été un golpe en français.
Oui, un coup monté.
Un coup monté.
Et au Brésil, le vote, est-ce qu'il est électronique ou est-ce qu'il est manuel ?
Actuellement,
est-ce que vous appuyez, donc vous appuyez sur un bouton ?
Oui.
D'accord. Donc, on n'est pas certain que ça a été le véritable vote du peuple brésilien ?
Parce qu'avant, il était complètement en haut.
En termes de popularité ?
En termes de popularité, les gens étaient satisfaits avec tout ce qu'il faisait. Tout était bien, tout allait bien. Donc actuellement, il est persécuté et j'ai peur qu'il meure.
Mais pour quelle raison il serait persécuté, d'après vous ?
Parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit le président.
Mais de toute façon, il ne peut pas puisqu'il a été, il a été privé de se candidater.
Mais il a été privé par, une idée erronée. Qui n'était pas juste.
D'accord. Est-ce qu'au Brésil, il y a quand même une justice qui est indépendante, d'après vous ?
Je ne vois pas, parce qu'il y a des choses qui racontent que les gens gagnent de l'argent, ils font ce qu'il faut faire pour gagner cet argent. Excuse-moi de dire ça, mais on voit ça.
Est-ce que quand même, Eunice Kouli, vous restez optimiste ? Est-ce que vous pensez qu'on va vers des jours meilleurs ? Ou est-ce que vous voyez l'avenir sombre ?
Bon, si ça continue, on sera une Venezuela. C'est vrai, si ça continue.
Je ne le souhaite pas.
Mais je crois en Dieu et je prie tous les jours pour que la justice soit faite et pour que les gens qui font du mal soient motivés par Dieu pour que tout s'améliore et eux, ils fassent le meilleur.
Vous parlez vraiment très bien français, Eunice Kouli. Vous n'avez pas du tout oublié.
J'ai oublié un petit peu.
C'était un plaisir de vous interviewer. Merci de vous être prêté à l'exercice, Eunice Kouli.
Merci de faire cette connaissance parce que toi, tu es pour moi un enfant, un bébé pour moi.
Je suis très touché par ton affection.
Oui.
Merci, Eunice Kouli.
Bravo pour tout ce que tu fais et salut à tous les Français.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando o meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem lar. Senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa.
Nous sommes le 28 novembre, nous sommes toujours à Rio de Janeiro. Je fais la connaissance de François Alves. Vous êtes français, vous habitez en région parisienne et vous avez votre résidence secondaire à Copacabana, à Rio de Janeiro. Qu'est-ce qui vous a amené au Brésil? C'est la musique?
La musique notamment, ainsi que le football dans les années 90, après la finale de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis.
À Los Angeles.
Absolument.
Le Brésil gagne.
Au tir au but face à l'Italie.
Et quel déclic? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous?
En fait, ce jour-là, je regarde cette finale avec un ami et on s'est tout de suite rapproché sur le fait qu'on aimait le football brésilien. Et on s'est dit, si le Brésil gagne le match et champion du monde ce soir, on part ensemble tous les deux au Brésil.
Ah voilà, un petit challenge. Blague, Tom. Que vous avez donc, j'allais dire, portugais, que vous avez compris, que vous avez respecté. La musique, c'était quoi? C'était au début, c'était la bossa nova?
Non, c'était George Ben. George Ben, moi je suis né en 1971, donc à mes 15 ans, c'était... toute la vague George Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc., qui étaient les chanteurs qui étaient reconnus en Europe. Et moi, ça a vraiment été George Ben.
C'était les plus connus dans le monde. Ça a été des très bons ambassadeurs de la culture brésilienne. Gilberto Gil, enfin toute cette musique populaire brésilienne. George Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, François, mais parfois... Il est presque mieux considéré à l'étranger que dans son propre pays.
Beaucoup plus.
Comment est-ce que vous expliquez ça?
C'est incompréhensible. Lors de la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil, j'étais persuadé qu'ils allaient proposer George Ben pour l'ouverture de la Coupe du Monde. C'était un DJ minable américain. Enfin, c'est...
Faute de goût. Alors là, je dis faute de goût.
DJ Pitbull. Mais effectivement, George Ben est beaucoup plus célèbre à l'étranger qu'au Brésil. Alors maintenant, à Rio, il a une belle cote quand même.
Non, mais parce qu'il a été, par exemple, repris par plein de musiciens de je ne sais pas combien de pays qui ont fait des versions. Donc vous venez depuis quoi? Ça fait plus de 25 ans que vous venez?
Avril 1995, donc 30 ans. Je fête mes 30 ans.
Ouais. Donc vous êtes un peu brésilianisé, hein, ouais. Vous êtes d'accord? À quelle fréquence, à peu près, comment vous répartissez?
Ça a été tous les ans, les premières années. Ça s'est accéléré après, par la suite. J'ai rencontré mon épouse 8 ans après.
Donc elle est brésilienne?
Brésilienne, de Rio, Carioca. Et ensuite, il y a eu des fréquences plus ou moins régulières. Et depuis le Covid, depuis 2022, là, ça a été vraiment un aboutissement. On vient beaucoup plus souvent. Et puis, c'est la période où on a décidé d'investir et venir 3 mois par an.
D'avoir, voilà, vous vouliez être chez vous, vous avez
absolument
un appartement.
Et ça change tout. Ça change tout. Entre être chez soi, se sentir chez soi à l'étranger et être à l'hôtel ou dans un appartement en location, c'est complètement différent. On n'a pas du tout la même approche.
Vous avez beaucoup de vacances, François ? Qu'est-ce qui fait que vous...
Alors moi, je travaille dans l'organisation événementielle, donc j'ai une très très forte activité d'avril à octobre. C'est beaucoup plus cool sur la partie hivernale européenne, c'est-à-dire novembre à mars.
Ce qui vous permet de vous absenter.
Voilà, ouais, exactement.
La vie au quotidien, on va dire, c'est agréable. On peut descendre, prendre son petit café, on se prend son journal si on a envie de lire le journal. Si on a un problème avec la prise électrique, on appelle l'électricien. Enfin, voilà, au quotidien, ce n'est pas désagréable, on est d'accord ?
Absolument. Puis la plage.
Là, vous êtes sur la plage.
Voilà,
on peut pas faire plus près. Est-ce que quand vous arrivez au Brésil pour la première fois, vous vous attendiez un petit peu à ça? Ou est-ce que vous avez été surpris?
Non, j'étais surpris. C'était une très belle surprise parce que je n'imaginais pas que ça pouvait exister comme je l'imaginais avant. Et donc, ça a été un tremblement de terre.
Dans votre tête?
Dans ma tête, oui. Absolument. Psychologiquement, ça a été très violent dans le bon sens du terme.
Oui, très fort.
Ah oui.
Très impactant.
Ouais, très, très impactant.
Vous vous sentiez bien? Chez vous, vous avez l'impression
de... Absolument.
Ouais.
Voilà. J'ai eu l'impression de me sentir chez moi et d'être vraiment en phase avec mes convictions naturelles, mon rapport à la vie, mon rapport aux gens, mon rapport, enfin, à tous les niveaux. Je me sentais comme si j'avais eu une vie antérieure sur mais plus Rio. Vraiment Rio, ça part.
D'accord.
Parce que j'ai voyagé au Brésil, donc il y a un ADN général, mais Rio, c'est vraiment une ville à part.
Ouais. Mais il y a une musicienne qui n'est pas de Rio, elle est du Sud, mais aujourd'hui elle habite à Rio, Adriana Calcagnotto, qui a même fait une chanson qui s'appelle Carioca, et elle donne comme... Elle explique l'ADN du carioca. Donc, le carioca, il parle fort, il déteste sa solitude, il n'aime pas les jours nuageux, il n'aime pas les feux rouges. Et il a dit, elle sent bonitos, elle sent expertos, ils sont beaux, ils sont malins, ils sont bronzés. C'est vrai qu'on est dans un des plus beaux endroits du monde, donc c'est difficile de faire la tête quand on est à Rio, je pense.
Ah ouais, ça c'est... C'est, bah, sauf si on n'aime pas la chaleur, l'humidité et le bruit.
Ouais, là, on a le restant pour vous.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Est-ce que avec... Alors, vous connaissez bien sûr très bien ce pays, vous avez épousé une Brésilienne et vous venez régulièrement depuis un moment. Est-ce qu'il y a quand même des choses où vous ne vous y êtes pas fait parce que vous dites « Ah non, ça, c'est pas possible, ça. » Il y a des trucs qui continuent de vous surprendre, voire de vous agacer.
Non. j'ai tout pris.
Ouais.
J'ai tout pris. Je prends tout.
Et est-ce que vous pensez que votre, est-ce que vous pensez que le Brésil vous a changé?
Ah, complètement. Ça a changé ma vie, mon existence, complètement.
Vous, en quoi vous êtes capable de dire ou pas?
Dans mes rapports, dans les rapports humains, dans la compréhension, le rapport, la désacralisation de l'argent, le rapport à l'argent.
Oui. C'est vrai qu'au Brésil, si on fait fortune, c'est pas forcément mal vu.
C'est pas mal vu. Et
en France, c'est un peu suspect.
Absolument. Et donc, ça, vraiment, ça a été un point important. Comme j'ai toujours été dans une activité professionnelle où je devais me vendre, où je devais vendre mes services, mes prestations. Donc, le rapport à l'argent, pour moi, a été désacralisé très, très rapidement. Et ça a été remplacé notamment par la générosité. Et on ne se rend pas compte à quel point la qualité de la générosité est infinie. Infinie.
Oui, il y a, alors évidemment, il y a beaucoup d'inégalités sociales, mais il y a de la générosité, il y a de la solidarité.
Absolument.
Quand, par exemple, la bonbonne de gaz arrive dans les favelas, bon, parfois le gars qui livre dit « bon, ben, je te la laisse, puis tu me paieras la prochaine fois ». Enfin voilà, c'est…
Il y a énormément de solidarité, absolument.
Et puis… Le Brésil est plus dans le collectif que dans l'individuel, je trouve, par rapport à la France. C'est vrai que nous, on est souvent dans l'individuel. Bon, ben là,
par rapport à l'Europe en général, l'Occident.
Là, on est clairement dans le collectif.
Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus collectif et beaucoup moins individualiste.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, on est dans une situation où, sur le plan économique, bon, il y a quand même des difficultés, nous sommes d'accord. Est-ce que vous voyez, depuis le temps que vous venez au Brésil, eu un mieux quand même dans le quotidien des cariocas? Est-ce que la vie est quand même plus simple?
Alors, Rio, économiquement, est la deuxième ville la plus riche du Brésil, derrière São Paulo. Il y a des difficultés économiques, mais ils ont quand même 4% de croissance en 2024.
L'état de Rio, vous voulez dire?
Le Brésil.
Le Brésil.
Donc, qui est la deuxième plus grande croissance en Amérique.
De la première économie sud-américaine.
Derrière l'Uruguay, ils ont une croissance supérieure aux États-Unis, par exemple.
Oui, sauf que le Brésil est beaucoup plus riche que l'Uruguay.
Voilà, exactement. Et donc, c'est un pays d'opportunités, un pays d'avenir où il y a un potentiel énorme. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé et j'ai vu le développement en 30 ans qui a été très, très rapide en quelques années. Il y a eu la constitution d'une classe moyenne importante qui existait peu il y a 30 ans.
Oui, il y a des Brésiliens qui ont eu accès à la consommation au début des années 2000, au point que d'ailleurs ça a créé des ruptures dans l'approvisionnement de l'électricité, par exemple, parce que les gens se sont mis à acheter des ventilateurs. Alors voilà, le réseau n'était pas forcément formaté pour que tout le monde, quand il fait chaud, allume le ventilateur. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle que, effectivement…
Il y a également des problèmes d'infrastructure au niveau des aéroports, entre 2004 et 2008, où les infrastructures n'étaient pas suffisantes pour absorber le nombre de nouvelles populations. Prendre l'avion.
Alors, les infrastructures, il y a encore des progrès à faire. Hein. Toutes les marchandises quasiment sont transportées par voie terrestre au Brésil. Donc, les autoroutes, ce sont des déversoirs à camions. Malheureusement, il n'y a quasiment pas d'infrastructure ferroviaire. Au Brésil, les ports sont encombrés. Le pays, on va dire, tourne à toute vapeur. Est-ce que vous, François Alves, vous êtes plutôt d'un naturel optimiste? Comment vous voyez les années futures?
Oui, je suis très optimiste. Ouais. Au niveau de tout ce qui est matières premières, enfin, le Brésil est un pays exportateur. Et autant je suis très pessimiste sur l'Europe, mais par contre sur le Brésil et l'Amérique du Sud en général, je suis plutôt optimiste.
Alors les matières premières, le Brésil en regorge.
Ah oui.
Le sous-sol, c'est un coffre-fort. Il suffit de prendre une pioche. Alors on a extrait déjà pas mal de pierres et pas mal d'or, mais le Brésil est un pays riche. Pour autant, ces matières premières, parfois, elles sont décriées. depuis la position européenne. Le bœuf, par exemple, qui est nourri avec des OGM, le blé qu'on fait pousser avec des OGM, etc. C'est cette force, elle est aussi parfois décriée d'un point de vue européen. Alors, est-ce qu'il y a paradoxe ?
Bah, c'est un problème de différence de normes, tout simplement. L'Europe est très normative et automatiquement, ici, ça, c'est la préhistoire à ce niveau-là. Vous faites des travaux chez vous, vous changez une fenêtre, vous avez la personne qui va se mettre sur le rebord de la fenêtre au 8e étage sans aucune sécurité. Voilà, c'est assez, assez impressionnant. Mais après, concernant... Le Brésil est considéré comme étant la ferme du monde. Donc, c'est... J'ai appris dernièrement, par exemple, que le Brésil était le premier exportateur mondial de viande halal.
Ah oui, c'est mal ça.
Ouais, absolument. Donc, c'est quelque chose d'inimaginable dans le pays le plus catholique du monde. Donc, ils s'adaptent à la demande.
Il y a un marché.
Voilà, il y a un marché. Ils vont satisfaire la demande. Et concernant, il suffit de voyager un petit peu au Brésil pour se rendre compte que, en fait, c'est une richesse agricole sans limite.
Oui, bah déjà, c'est vaste. Donc, il y a des terres. Alors, les terres ne sont pas extrêmement fertiles, mais il fait tellement chaud et puis il pleut, donc ça pousse. Et puis aussi, les ingénieurs agronomes ont fait progresser en termes de fertilité. Il y a eu des traitements. On peut faire, puis avec un tel climat, on peut faire souvent plusieurs récoltes par an.
Absolument.
Quand en France, on en fait.
Oui,
mais sinon,
mais...
Oui. Mais sinon, d'un point de vue purement matériel, vous êtes capable de vous satisfaire du fromage local, qui a un goût...
Les vins argentins et chiliens sont très bons. Ils ne sont pas comparatifs aux Français ou aux Italiens, mais sont des très bons vins. Non, rien, absolument rien.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits que vous aimez au Brésil ? Et est-ce que vous connaissez bien le Brésil ? Vous connaissez très bien Rio de Janeiro, mais est-ce que vous connaissez bien...
Alors, il faut 10 vies. Il faut bien connaître le Brésil. J'ai voyagé... dans le sud, au nord-est, j'ai une vision globale. Mais avoir une idée précise sans connaître l'Amazonie, c'est inimaginable. Donc, c'est très compliqué, ça. En fait, le Brésil est 16 fois plus grand que la France et plus grand que l'Europe, hors Russie. Donc, c'est compliqué. Mais on peut voir les différences culturelles entre villes du nord, le nord-est, le Paraná, enfin voilà, il y a 26 ou 27 États. Donc c'est incroyable. Dans le sud, vous avez énormément de Brésiliens d'ascendance européenne. Enfin voilà, c'est un mélange culturel et un mélange racial qui est, je pense, unique au monde. D'ailleurs, ils l'appellent, je me souviens, il y a quelques années, ils parlaient d'intégration totale et c'était un exemple. Le Brésil était un exemple d'intégration totale pour tous les nouveaux pays qui souhaitaient sortir du communautarisme et avoir vraiment une...
Oui,
je trouve pas mes mots.
Non, mais si, j'ai compris ce que vous voulez dire. On n'est pas dans le... on peut être un peu dans le communautarisme, mais beaucoup moins qu'en Europe ou aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez fluide, effectivement.
C'est pas racial.
Oui, c'est ça.
C'est social, mais
oui,
pas racial.
Oui, oui.
C'est ce que j'ai pu constater après.
Oui. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir du racisme,
bien sûr,
vraiment, au Brésil, mais c'est quelque chose qui est un petit peu larvé, c'est pas quelque chose qui est apparent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Un autre endroit au Brésil qui vous plaît en particulier, François ?
Alors là, j'ai découvert cette année Maceió, qui est une ville à deux heures d'avion de Rio. C'est magnifique.
Donc c'est au-dessus de Salvador de Bahia.
Voilà, entre Recife et Salvador. Voilà. Entre Recife et Salvador, avec mon épouse, on a voyagé donc à Recife, on a loué une voiture, on a fait tout le littoral pendant 15 jours entre Recife et Salvador, et c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'on a découvert des villages, des endroits où ils n'avaient jamais vu de Français.
Ah oui, d'accord. Parce que ça n'est pas touristique.
Voilà, exactement. Et puis le littoral, vous avez 8000 km de littoral dans ce pays, donc c'est absolument énorme. On a eu une petite anecdote. mon épouse a souhaité acheter un sac. Et quand la vendeuse a vu qu'on discutait, qu'on échangeait en français, elle était tellement heureuse de rencontrer des gens qui parlaient français qu'elle nous a fait une remise de 20% sur le sac. C'est un Maragogi, une ville extraordinaire. Il y a énormément de plages paradisiaques, d'endroits extraordinaires qui sont encore loin de toutes les grandes populations. Enfin, c'est vraiment impressionnant.
Est-ce qu'au quotidien, quand vous êtes ici, François, vous avez vos habitudes dans le quartier? Est-ce que quand on est français, on a un peu la cote?
Oui. Les Français sont très bien.
Il y a toujours eu des rapports connus entre la France et le Brésil. Hein?
Toujours. J'ai toujours connu ça. Dès qu'on est français, on a une cote qui est vraiment bien plus élevée que les Américains, par exemple.
Oui. Alors là, c'est encore un autre paradoxe parce que souvent les Brésiliens disent ah non, mais moi, les États-Unis, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais moi, j'ai rien à voir avec la culture américaine. Et puis, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils vont en Floride. Voilà. Moi, j'aime bien les embêter un petit peu avec ça. C'est pas bien fait, je confirme. Merci beaucoup, François Alves.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.